Radio Okapi.
Élections 2023 en RDC. Ce temps d'attente doit être mis en œuvre par le gouvernement, la population et la MONUSCO pour aplanir les obstacles. Déclaration hier de la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, intervenait pour sa toute première fois hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le mois de mars dédié à la femme se clôture aujourd'hui. Cependant, la ministre du Genre appelle toutes les femmes à rester mobilisées dans la lutte pour leurs droits. Béatrice Loméa interpelle les pouvoirs publics pour la concrétisation des lois qui protègent les droits des femmes. Vous l'entendrez. L'invité, Bishop Janvier Baraka, président du consortium des chefs religieux de Béni. Il appelle à la retenue face aux messages plus ou moins virulents des groupes de pression de Béniville, invitant la population à l'incivisme fiscal et à l'auto-prise en charge face à l'insécurité. Madame, Messieurs, bonjour. La RDC a désormais les yeux rivés sur les élections de 2023. Cette étape représente une étape cruciale dans l'avènement de la démocratie dans le pays et la stabilisation des institutions. La déclaration est de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Madame Bintou Keïta, l'a dit hier lors de sa toute première intervention devant le Conseil de sécurité, au cours de laquelle elle a présenté le rapport général du secrétaire général de l'ONU, rapport relatif aux activités de la mission onusienne au Congo. Selon la chef de la MONUSCO, le temps qui nous sépare de la date de la tenue des élections doit être mis en œuvre par le gouvernement de la RDC, la population et la MONUSCO pour aplanir les obstacles en vue de garantir la bonne tenue des élections. On écoute Madame Bintou Keïta dans cet extrait que nous propose Pele Kipela Mondo.
Le pays a déjà les yeux tournés vers les élections de 2023. Le processus électoral de 2023 représente une nouvelle étape critique dans le processus de transition démocratique, de consolidation institutionnelle et de stabilisation du pays. Après la passation pacifique du pouvoir entre le président Kabila et le président Tshisekedi en 2019 et le remaniement de la coalition au pouvoir au cours des trois derniers mois, cette échéance informe déjà les positionnements politiques, les propositions de réforme à l'agenda de la rentrée parlementaire et le débat public. Conformément à la volonté du président Tshisekedi, le premier ministre désigné, M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, m'a également indiqué que la préparation des élections de 2023 constitue l'une des priorités du gouvernement à venir. Les 33 prochains mois avant ces échéances électorales se présente ainsi devant nous comme une route que nous devons emprunter ensemble avec le gouvernement et la population congolaise en redoublant d'énergie et d'efficacité pour franchir les obstacles et relever les défis qui se présenteront à nous afin de poursuivre la consolidation démocratique du pays et de ses institutions et d'avancer vers la stabilisation de l'Est et les réformes nécessaires à cet effet.
Pour la chef de la MONUSCO, les fragilités persistantes et les obstacles qui subsistent pour la bonne tenue des élections ne doivent pas être ignorés. Pour les surmonter, Madame Keïta pense qu'il faudra que la communauté internationale et le gouvernement congolais parlent d'une seule voix et agissent d'un commun accord. Par ailleurs, elle pense que l'accession du président Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence de l'Union africaine représente l'une des opportunités qu'il faut saisir pour taire définitivement les armes dans la région des Grands Lacs en promouvant la paix entre la RDC et ses voisins. On l'écoute.
Cette présidence ne symbolise pas seulement le retour de la République démocratique du Congo dans le concert des nations leaders du continent africain, elle doit également permettre de montrer l'engagement du pays et de la région à faire taire les armes une fois pour toutes dans cette partie du continent. Il est essentiel que nous soutenions l'engagement du président Tshisekedi et sa présidence de l'Union africaine afin d'ancrer résolument et définitivement la région des Grands Lacs dans une dynamique de paix, de sécurité et de développement économique, régional, inclusif et durable. Je suis heureuse de noter et de signaler l'engagement continu du président Tshisekedi en faveur de l'amélioration des relations avec les voisins de la République démocratique du Congo, qui demeure d'une importance vitale pour la stabilisation des provinces orientales du pays et pour assurer la paix et la sécurité dans toute la sous-région.
Et dans le cadre de la recherche des solutions pour pacifier l'Ituri, la section des affaires civiles de la MONUSCO réunit depuis lundi des leaders communautaires Bira. Il s'agit d'une approche qui vise à renforcer la confiance entre les FARDC et cette communauté, cela dans le but de résoudre les problèmes sécuritaires dans ce territoire qui fait face à l'activisme des groupes armés. Selon plusieurs rapports, en effet, un climat de méfiance règne entre ces deux partenaires. La population accuse en effet l'armée de se livrer aux arrestations arbitraires, alors que les FARDC soupçonnent certains membres de cette communauté de complicité avec les forces négatives dans la région. Desbon Mouissa, officier aux affaires civiles de la MONUSCO, explique l'objectif de cette séance de travail au micro de Jean-Claude Loki.
Vous savez qu'il y a des groupes armés qui bâtissent leur existence sur des revendications communautaires. Alors, nous avons préféré ce que la communauté Bira puisse se réunir et réfléchir sur toutes ces problématiques. Est-ce que réellement l'FPIC défend les Bira? Qu'est-ce que les Bira tirent comme conséquence de l'activisme d'FPIC? Est-ce qu'il n'y a pas opportunité à ce que les Bira puissent basculer vers l'armée et travailler avec cette armée pour restaurer la paix dans les territoires du Rumu?
En séjour à Kinshasa, la responsable de l'orphelinat Tukinge Mahatima sollicite la compassion des personnes de bonne volonté afin d'assister 300 orphelins de Kassindi Lubiria dans le Nord Kivu, orphelins dont les parents ont été tués dans cette localité du territoire de Beni, à la frontière avec l'Ouganda. Se confiant à Radio Kapi, Madame Kabuo Maliro affirme qu'après la construction par le gouverneur du Nord Kivu du bâtiment qui abrite cet orphelinat, elle manque de tout pour assurer la scolarité et les soins de santé de ces orphelins qui gardent les stigmates des atrocités ayant emporté leurs parents. Madame Kabuo Maliro au micro de Pascal Masirika.
Là où je suis avec les orphelins, je suis dans une zone rouge, oubliée par les humanitaires. Avec les orphelins là-bas, ça ne va pas.
Vous encadrez combien d'orphelins?
300 orphelins des massacres. Et les enfants sont troublés parce qu'ils voient comme on a égorgé son père, sa mère. Les enfants ont des plaintes incurissables. Vraiment, c'est le message de détresse, le cri d'alarme. Les orphelins souffrent parce que les massacres continuent. Nous sommes déstabilisés. Je lance le cri d'alarme à la première dame, Madame Denise Nyaker, et les églises ici à Kinshasa, les personnes de bonne volonté. À Beni, ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne suis pas sécurisée avec les enfants. Moi, je lance le message à Monsieur le Président de la République, la Première Dame, Madame Denise Nyaker, de venir en aide. Les enfants souffrent, il faut une école, un hôpital, parce qu'ils tombent malades chaque fois. Ils sont blessés, quand ils voient, on égorge son père. Ils sont blessés vraiment. Ils tombent malades chaque fois, il faut l'école.
Justice. Environ 600 prisonniers de Makala ici à Kinshasa, bénéficiaires de la dernière mesure de grâce présidentielle, attendent toujours d'être libérés. Leur avocat dénonce cette détention prolongée. Selon Maître Peter Ngomo, la libération de ces personnes permettrait de désengorger un peu la prison centrale de Makala, qui est à ce jour à 9000 pensionnaires dans des conditions infrahumaines. Maître Peter Ngomo interpelle les autorités judiciaires du pays sur la non-application de cette mesure de grâce. Justice toujours. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé hier la culpabilité de l'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda. Il avait été condamné à 30 ans de prison, la peine la plus lourde jamais prononcée par la CPI. Cette peine est donc confirmée par la Chambre d'appel de la CPI. Le Fonds mondial pour les survivantes des violences sexuelles liées au conflit et la Fondation Panzi organisent depuis hier à Kinshasa la première table ronde axée sur ce sujet en RDC. Rappelons que ce Fonds mondial a été lancé en octobre 2019 par le docteur Denis Mukwege et Nadia Mourad, tous deux lauréats du prix Nobel de la paix 2018. Sa mission est d'améliorer l'accès aux réparations pour les survivantes des violences sexuelles liées au conflit dans le monde entier. Selon Tesi Aurore Bakaba, chef du projet pilote RDC du Fonds mondial de réparation pour les survivantes des violences sexuelles liées au conflit, les recommandations prises par les participants lors de ces assises qui se clôturent aujourd'hui seront présentées aux autorités du pays pour servir de feuille de route. Mais qu'entend-on par réparation? Tesi Aurore Makaba explique au micro d'Adolphine Ngoy.
Les réparations sont toutes les mesures de redressement qui permettent aux victimes de retrouver la dignité par rapport à tout ce qu'elles ont subi. Donc, c'est des mesures qui peuvent prendre la forme des indemnisations, de la restitution de ce qui est possible d'être restitué, notamment des droits, des biens, des mesures de réhabilitation et adaptation. Donc, c'est les soins de santé, les soins psychologiques et des mesures symboliques telles que les garanties de non-répétition et la satisfaction. Aujourd'hui, puis nous mettons autour d'une même table les organisations de la société civile, les survivantes, les organisations nationales et internationales, par exemple les Nations Unies, pour que ces derniers puissent discuter de la faisabilité et de la feuille de route de la mise en œuvre des réparations en RDC par rapport à la planification gouvernementale. Donc nous n'étions que très satisfaits qu'en décembre, à la suite des consultations, quand le président a décidé que la RDC prendrait le chemin de la justice transitionnelle.
Pendant ce temps, la ministre d'État au genre appelle toutes les femmes à rester mobilisées dans la lutte pour leurs droits en dépit de la clôture aujourd'hui 31 mars des activités du mois dédié à la femme à travers le monde. Dans une déclaration à Radio Capi, Béatrice Loméa demande aux femmes de s'approprier le numérique qui a fait ses preuves, surtout dans ce contexte de Covid-19. Elle interpelle les pouvoirs publics afin de continuer dans la concrétisation de toutes les lois qui protègent les droits des femmes. La ministre Béatrice Loméa, au micro d'Alain Rong.
Nous lançons un appel vers les femmes qui sont les premières concernées, de rester mobilisées pour travailler au respect de leurs droits qui sont des droits humains. Le thème national qui planche sur le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la COVID-19, devra continuer à être exploité tout au long de l'année pour que lorsque nous arrivons au mois de mars de l'année prochaine, nous puissions faire l'évaluation de tout ce qu'on aura fait par rapport à ce thème. Nous n'allons pas oublier l'aspect numérique. Que puisqu'on ne le dira jamais assez, nous avons vu pendant cette période de la pandémie comment le numérique a fait en sorte que le monde continue à fonctionner. Et donc, il est temps que nous puissions effectivement amener les femmes dans ce monde-là aussi, s'en imprégner puisque ça devient un outil, ça devient un canal indispensable pour rester actif dans tout ce qu'on est en train de faire comme activité. Nous allons donc ici terminer par interpeller tous les acteurs du secteur, d'abord nous-mêmes, les pouvoirs publics. Nous avons l'obligation de continuer à travailler pour la concrétisation de toutes ces lois qui protègent la femme.
Et puis, la proposition de participer au gouvernement Samalou Kondé est moralement inacceptable pour le Front commun pour le Congo. Déclaration d'Alain Atondou hier à Kinshasa. Dans un entretien devant la presse, ce communicant du FCC a ajouté que cette proposition est tout simplement une humiliation qui ne vaut pas la peine. André Alain Atondou l'a dit au micro de Paul Matendo.
Cette prise de position était tout à fait prévisible du point de vue de la logique et du point de vue de l'éthique professionnelle. Sur le plan logique, l'Union sacrée était comme un antidote de la coalition FCC-CACH, dont l'objectif d'ailleurs était de tuer le FCC. Et donc, logiquement, nous ne pourrions participer à un gouvernement dont la finalité est de prouver que le FCC n'avait rien fait durant les 2 années de coalition. Et moralement, la proposition de participer au gouvernement est inacceptable parce que c'est comme un conjoint répudié qui va assister aux noces de celui qui l'a répudié. C'est une humiliation qui ne vaut pas la peine.
Exactement 1179 écoles doivent être désactivées du fichier de paye des enseignants. Cette décision publiée hier sur le compte Twitter du ministère de l'EPST est contenue dans une correspondance que le secrétaire général de l'EPST adresse au gouverneur des provinces. Selon la même source, le premier ministre a demandé au ministre des tutelles d'instruire le CECOP afin d'élaguer ces écoles de la liste de paye des enseignants. Motif, elles fonctionnent avec des faux arrêtés de leur personnel, des agents avec données d'identification irrégulière ainsi que des doublons, fait révéler par l'inspection générale des finances lors de son enquête dans ce ministère.
Actualité Afrique Monde.
Palma, au Mozambique, désormais une ville fantôme après l'attaque de grande ampleur menée ces derniers jours par des combattants d'un groupe djihadiste affilié à l'organisation État islamique. La majorité de ses 75 000 habitants ont fui la ville. Lundi, les autorités de Maputo ont organisé un vol en hélicoptère pour des journalistes. S'est trouvé notamment à bord un journaliste de l'agence de presse portugaise. L'appareil est passé à proximité de Palma. Le journaliste décrit une ville fantôme désertée par ses habitants. Il n'y a toujours pas de bilan clair concernant le nombre des victimes. Plusieurs pays d'Europe ont pris des nouvelles mesures restreignant l'accès à leur territoire alors qu'elles tentent de faire face à une troisième vague de Covid marquée par l'apparition des variants plus contagieux et peut-être plus mortels. Avant d'entrer en Italie, toute personne venant d'un pays de l'Union européenne devra faire un test, une quarantaine de 5 jours, puis un nouveau test, une mesure que Rome avait déjà mise en place pour les pays hors Union européenne. L'Allemagne va renforcer les contrôles autour de ses frontières terrestres, notamment avec la France, la Pologne et le Danemark. Toute personne n'ayant pas un test négatif de moins de 48 heures ou ne s'étant pas enregistrée auprès des autorités sanitaires allemandes devra payer une amende et observer une quarantaine de 5 à 10 jours. L'Espagne, elle, va demander aux automobilistes arrivant de France un test PCR négatif de moins de 72 heures.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le bishop Janvier Baraka, président du consortium des chefs religieux de Béni. Il nous fait une lecture de la situation qui prévaut à Béniville, avec des messages plus ou moins virulents, des groupes de pression invitant la population à l'incivisme fiscal, mais aussi à une auto-prise en charge face à l'insécurité. Bishop Baraka appelle ces jeunes à la retenue, les invitant plutôt à soutenir les efforts des FARDC et du gouvernement pour mettre fin aux violences des groupes armés dans la région de Béni. Il s'entretient avec Sekombi Katondolo.
Bishop Baraka, bonjour.
Bonjour.
C'est pratiquement depuis un certain temps qu'on voit la résurgence de menaces de jeunes à ne pas vouloir payer des taxes, à l'intoxication, s'il faut dire en ces termes, de certains groupes de pression à demander plus l'autoprise en charge. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, en tant que un homme de Dieu et aussi président du consortium de leaders religieux?
Avant tout, il faudrait que je puisse souligner que nous avions alerté au mois de janvier que la jeunesse avait tendance de se prendre en charge et qu'il y avait une intention d'installer progressivement un non-État à Béni. Et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre parce qu'aujourd'hui, c'est un appel au non-paiement des taxes, c'est ça le non-État. Et les menaces de se prendre en charge persistent parce que la population se sent parfois être abandonnée, nonobstant les efforts des FARDC sur les lignes de front. Mais les derniers événements sur la route Béni Kassindi, les derniers événements qui se répètent sur la route Béni Ituri et dans tous les territoires sont des éléments qui incitent la population à une colère excessive et une intention de vouloir se prendre en charge.
Pensez-vous que ça, ce serait une démarche à soutenir ou qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on n'arrive pas à cet état de non-état, comme vous venez de le dire?
Nous avions alerté en demandant à l'autorité provinciale qu'on organise un dialogue de vérité à Béni et qu'au cours de ce dialogue, on pouvait peut-être diagnostiquer et prévenir certains dégâts. Et nous pensons que agir en avance ne serait pas aussi correct parce que, comme je l'ai toujours dit, nous n'avons pas de ville. Nous, les habitants de Béni, nous avons la seule ville de Béni. Nous n'avons que ces infrastructures que nous-mêmes nous avons bâties à Béni et d'autres que l'État a bâties. Alors, si nous nous mettons à les détruire, nous ferons peut-être un recul de plus de 10 ans, de plus de 20 ans ou de plus de 30 ans. Je pense qu'il est plus responsable que les gens se mettent autour d'une table, qu'on en discute et qu'on voit quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour qu'on essaie d'éviter les pires.
Un message à adresser aux jeunes qui vous suivent à pareil moment, jeunes de la ville de Béni, jeunes de la région de Béni.
Les jeunes, ce sont nos enfants et nous pensons que les jeunes ont aussi le devoir de nous écouter en tant que parents. Nous sommes dans la période pascale et la fête de la famille où les enfants sont appelés à obéir aux parents et les parents écoutent aussi les jeunes. Mais notre message, c'est que nous demandons à la jeunesse de jouer à la retenue, qu'on ne puisse pas détruire ce qui existe. Mais peut-être, je demanderai aux jeunes de soutenir les FARDC, qui font déjà un bon travail, nonobstant les quelques failles qu'on peut observer ici et là. Nous en appelons aussi à toute la population de soutenir les efforts qui existent déjà et peut-être s'entraider pour que nous puissions conserver ce que nous avons et peut-être agir en responsable en voulant préserver cette petite paix que nous avons dans la ville, cette petite quiétude et que ensemble, plutôt, nous puissions nous asseoir pour trouver des solutions durables pour cette situation qui n'a qu'être dit.
Bishop Baraka, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'était là notre invité, le président du consortium des chefs religieux de Beni, Bishop Janvier Baraka, répondait aux questions de Sekombi Katondolo. Ainsi prend fin ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo, à la mise en onde Jean-Claude Nsiala. Merci de nous avoir suivis.